Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes le 3 juin et c'est vrai que l'année passe vite. Vous écoutez donc Flash sur le monde par Élise Bock pour Radio Silence. Bon, puisque nous suivons aussi l'actualité, donc de temps en temps, il y a des sujets qui émergent. Où on ne va pas faire dans le spectaculaire du match du Real Madrid contre Liverpool. Hein. Bon, on a tout dit. Il n'y a plus rien à ajouter, sauf que les 40 000 billets faux, on demande bien à voir, parce que là, qui c'est qui fait cette estimation, sur quelle base, et comment Liverpool répond à cela, on ne sait pas. Bon, ce n'est pas de cela dont on va parler, parce que c'est trop facile. Et puis, de toute façon, venant à la suite du problème du joueur M. Mbappé, il est évident que les choses peuvent prendre des proportions excessives. Bon, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, déçus, et puis de procédures pas suivies. C'est pas de ça qu'on parle, hein, mais on dit qu'à un moment vite fait, c'est plutôt encore de la question noire. La question noire, parce que figurez-vous qu'après la nomination du ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, il y a un article qui a été publié, parce que cette nomination, au-delà des clichés qu'on voit, des étiquettes que les uns et les autres collent dessus, le genre wokisme, ou le genre méritocratie, ou le genre diversité, ça c'est des étiquettes et ça ne nous avance pas beaucoup. Et donc, j'ai pensé que le cas de la Maison Blanche, ce qui se passe là-bas, est intéressant, parce que là-bas, il y a un malaise, c'est un article qui l'a dit, un malaise des personnels de couleur noire, dans ce qu'on appelle la diversité. En fait, le président Biden, au moment de sa campagne, il avait promis que la Maison Blanche allait ressembler à la population américaine en termes de proportionnalité. C'est-à-dire que si les Noirs et tout le reste, parce qu'il n'y a pas que les Noirs, les Indiens, les Portoricains représentent autant pour cent, alors cette proportion serait respectée à la Maison Blanche, sauf que quand même, la question noire est une question privilégiée pour les démocrates, parce que déjà c'est leur électorat, c'est le nœud de l'électoral. Et donc il faut faire attention à cet électorat-là, de façon à ce qu'il ne bascule pas du côté des républicains. Alors, du coup, M. Biden, évidemment, il a, comment dire, il a tenu sa promesse. Mais à l'arrivée, ce n'est plus tant ce reflet qui fait problème que la capacité à traiter des problèmes que rencontre la communauté, et aussi des problèmes même que rencontrent ceux qui ont été embauchés. Bon, c'est vrai que beaucoup sont embauchés parce que, enfin, c'est un peu leur première expérience comme cela, et donc forcément, ils ne vont pas occuper les postes importants de la hiérarchie, mais toujours est-il dit que tel que ça fonctionne, ils ne voient pas très bien comment ils peuvent évoluer en termes de carrière. Donc, c'est déjà un problème. Il n'y a pas de grands frères. Vous voyez, c'est la même génération qui arrive. Et ils ne voient pas très bien comment ils peuvent faire en sorte que les problèmes que rencontre la communauté noire figurent en tête de l'agenda, comme on dit, de présidentiel. Ça a du mal à émerger là. Et ça leur fait souci parce qu'eux-mêmes se sentent en décalage par rapport donc à leur présence à la Maison Blanche, si cette présence-là ne se traduit pas par des solutions pour la communauté noire, parce que lorsqu'ils rentrent sur place dans les quartiers, ben on leur dit « qu'est-ce que vous foutez là-bas ?» Alors du coup, il y a une sorte de double malaise pour ses salariés. Beaucoup s'en vont parce qu'ils n'arrivent pas à tenir ce grand écart. Et certains s'en vont aussi parce que, entre-temps, ils ont pu trouver des postes plus intéressants dans d'autres administrations. Donc, c'est vrai que on a là, comment j'allais dire, quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire que il suffit qu'on mette deux ou trois noirs à des postes de visibilité, comme la vice-porte-parole de la Maison Blanche, qui est une petite noire américaine qui vient d'arriver, l'afro-américaine, très juvénile. Il suffit qu'il y ait deux ou trois comme ça pour qu'on se dise, ah ben voilà, on a rempli le contrat, mais les choses sont un peu plus serrées. Et bon, à la décharge quand même du président Biden, c'est de dire, ben, quel mon Dieu, qu'est-ce que c'est, quels sont encore les problèmes que la communauté noire peut avoir dans la mesure où on a quand même effacé pour certains la dette estudiantine. Donc, ils vont faire des aux États-Unis, vous savez, on prend un crédit pour faire ses études. Donc là, ça sera effacé, on va leur faire cadeau. Bon, quels sont les problèmes que la communauté noire américaine continue d'avoir aujourd'hui? C'est une question de fond parce que ce qu'on voit surtout de plus en plus, ce sont ces tueries, ces grandes tueries, n'est-ce pas, qui tuent tout le monde. Et bon, le problème noir en tant que tel, son malaise. Je ne suis pas sûre que c'est la Maison Blanche qui va le traiter. C'est à eux-mêmes de voir. C'est ce que je disais la dernière fois. C'est une question de pouvoir et de prise de conscience et d'engagement et de ne pas attendre aussi que la Maison Blanche fasse tout. Bon, évidemment, si les jeunes sont embauchés et qu'ils n'ont pas la main, qu'ils n'ont pas la marge, bah, que faut-il faire? Que faut-il faire? Je ne sais pas. Bon, il y a donc ce malaise dont le tout n'est pas d'embaucher les gens. Ce qui compte, comme on verra à la fin de l'émission, c'est ce qu'ils viennent faire, la mission. C'est la mission, parce que la diversité, de plus en plus, c'est une image affichée comme ça, très belle, mais on ne voit pas la mission derrière et le programme ou le calendrier. Donc, dans le malaise de la diversité, là, on a autre chose qui répond en face. C'est plus la diversité qui se sent pas mal, qui se sent mal. C'est au niveau, on est à la Maison Blanche, hein, de West Wing, le côté on appelle ça comme ça, où les communicants sont obligés de reprendre toujours ce que le monsieur Biden a dit. Alors le président n'est pas content parce qu'il dit, il faut pas reprendre ce qu'il dit, laisser ce qu'il a dit tel quel. Apparemment, bon, il y a aussi un malaise de ce côté, il y a des choses qui plaisent pas, ça concerne aussi la vice-présidente, dont malaise. Et puis, malaise en général aux États-Unis pour tout le personnel qui vit un burn-out parce que au bout de 2 ans de Covid ou de 3, il y a eu beaucoup de stress, les gens sont pas allés en vacances, et puis que ce soit le public ou le privé. Donc ça crée des tensions, des fortes pressions qui peuvent avoir des répercussions plus tard sur la santé des individus parce que les maladies cardiovasculaires, vous savez, quand vous êtes soumis à un stress comme ça très fort, le cardiovasculaire vous guette. Ça joue aussi sur les dépressions et ça joue enfin aussi, comme un médecin a dit, sur tout ce qui est consommation de drogue. Alors il faut que les gens prennent des vacances, mais il y a le chômage et il y a l'inflation. Bon, ça décrit quoi? Ça décrit le fait que. Une fois qu'on a dit diversité, on a juste commencé à parler. Et là, nous atterrissons, ce flash va être court, hein, sur la France. Donc la France a les mêmes problèmes. Diversité, diversité, et puis après, méritocratie, comme on a dit, ou wokisme, qui consiste à dire qu'on va introduire l'histoire des Noirs dans la programmation et dans l'éducation. Bon, déjà, on voit très bien qu'il y a des termes qui s'excluent. La méritocratie, par exemple, exclut la diversité par essence, parce que sinon, on ne parlerait pas du problème de M. Ndiaye, puisque c'est ces deux termes qui semblent fonctionner comme un oxymoron, c'est contradictoire. Bon, est-ce que On a nommé Monsieur Ndiaye uniquement pour faire de l'histoire noire, faire en sorte que les petits Français sachent un peu plus ce qui s'est passé au moment de la colonisation. Si c'est ça, bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais ça touche les programmes. Et quand ça touche les programmes, c'est déjà un gros débat et toute une histoire. Parce que figurez-vous aussi que dans les programmes, il y a aussi la considération de tout ce qui est mémoire. La mémoire aujourd'hui des étudiants post-1968, c'est un peu l'histoire contemporaine de la France qui commence avec la Shoah, en fait, et Hitler. Cette histoire contemporaine de la France a occulté la colonisation des Noirs et africaines et même le néocolonialisme. Bon, on a essayé d'enrober en plus tout cela dans des termes comme le développement. Donc aujourd'hui, on voit plus le développement de l'Afrique que tout ce qui est néocolonisation, que tout ce qui est obstacle à ce développement, parce que précisément, on n'a pas appris qu'avant le développement, il y avait la question de la colonisation, et que la colonisation en elle-même porte des germes destructeurs du développement dont il est question et qui a annoncé. Ce sont des questions très complexes qui, je ne sais pas si elles peuvent être résolues au niveau de l'éducation nationale. C'est peut-être l'enseignement supérieur qui va prendre cela en charge, je ne sais pas. Et on est là en face d'une mémoire un peu, comment je vais dire, bancale, où d'un côté, vraiment celle d'Auschwitz et tout le traumatisme juif a été spectaculairement documenté par la télé, et de l'autre, ce sont des bribes d'histoire, on ne commande pas plus, sauf en termes, j'allais dire, subliminaux de mépris. Donc il y a un effacement de l'immigration noire africaine. Et bon, ça c'est aussi la question que je posais tout à l'heure. Les problèmes des Noirs, qui c'est qui va les résoudre? Est-ce que c'est l'Élysée? Est-ce que c'est le ministère pour ce qui est de la France? Ou est-ce que c'est la Maison Blanche? Vous voyez, c'est des choses un peu complexes. Mais plus, pour finir quand même de façon contextuelle, quand on parle de l'éducation nationale, il faut voir quand même qu'il y a deux grands obstacles. Le premier, c'est l'urbanisation, voilà, et la transformation des zones en zones qualifiées. Comment on va faire pour qualifier, requalifier la zone? On a essayé par la politique de la ville, on n'y est pas arrivé. On a essayé en requalifiant les lycées, parce que les lycées en ZEP, zone d'études prioritaires, mais ça, les ZEP n'ont fait que accentuer la stigmatisation sans apporter de solution vraiment, comme on peut dire, en termes de méritocratie ou d'équité pour ces enfants des ZEP. Comment on fait ça? Est-ce que c'est le travail du ministre? Parce que le ministre de l'Éducation nationale ou l'Éducation nationale est, comment je vais dire, est précédé dans la course par cette urbanisation-là. Tant que l'urbanisation n'est pas faite, ce n'est pas la peine de parler de l'Éducation nationale. Ça va être très compliqué. Et là-dessus, il y a alors une dernière chose qui est encore plus terrorisante, je vais dire, pour le coup, c'est la question de la disqualification par le capital social et culturel dont a parlé Pierre Bourdieu. Le capital social et culturel, c'est un capital de classe. Vous ne pouvez pas être enfant de cadre, huppé, dans une zone huppée, et prétendre avoir le même capital social et culturel que l'enfant de la zone, vous voyez. Donc, or, c'est ce capital-là, social et culturel, qui fait la différence en termes d'éducation, en termes de méritocratie, et en termes d'emploi qualifié, et en termes même de parcours social, enfin de parcours scolaire, puisque après, ce sont ceux qui ont le plus de capital social et culturel qui iront dans les grandes écoles et qui vont avoir les grands métiers. Donc, ce capital-là, comment on fait? Jusqu'à présent, on n'a pas eu de réponse pour dire comment On comble le capital social et culturel, le déficit de capital social et culturel dont souffrent les enfants des territoires, on va dire, défavorisés encore, l'urbanisation, vous voyez, et probablement l'emploi. Bon, mais l'emploi, je le mets de côté parce qu'on est vraiment là dans les questions d'éducation, dans la question de la sociologie, dans la question de l'urbanisation. Et on va dire peut-être sociologie urbaine, mais pas seulement, dans la question des classes sociales. Comment on fait pour que les choses s'équilibrent, qu'on n'arrive pas dans un concours de Sciences Po où il y aurait une sorte de favoritisme, pas de favoritisme, de clémence intellectuelle et culturelle pour ceux des enfants qui viennent des ZEP. Alors, quand on dit méritocratie, quand on dit diversité, quand on dit wokisme, une fois qu'on a dit cela, bon, vous voyez, les problèmes restent là. On verra ce que les programmes vont apporter, mais c'est une solution. L'éducation nationale ne peut pas se concevoir, je vais dire, comme un univers clos. Elle est obligée de tendre la main à ces secteurs qu'on a essayé de définir là, et notamment à celui de l'urbanisme, à celui de la question de la zone, à celui du capital social et culturel, et à les classes sociales. L'éducation nationale n'y pourra rien. Mais peut-être, sait-on jamais, sait-on jamais. On va accorder un avantage à la créativité et à l'audace. Amis de Radio Silence, vous avez écouté Elise Mbock, c'était Flash sur le monde, et je vous dis à bientôt.